France Culture.
Les midis, c'est reparti tout à l'heure. À 13h, je recevrai le romancier malaisien Tash Hao. Mais tout de suite, place à Marie Sorbier qui est de retour avec le Point Culture cette fois.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Le monde européen de la fête est en pleine mutation. Alors que Berlin dominait le paysage depuis des décennies, on la décrit désormais en perte de vitesse. La presse française aime à penser que Paris pourrait prendre sa place dans le cœur des amoureux des nuits festives. Mais rien ne prouve encore que la capitale française puisse les accueillir. Le match Paris-Berlin pour le titre de capitale de la nuit, c'est le dossier du Point Culture du jour. Guillaume Robin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférences en études germaniques à l'Université Paris-Cité. Alors peut-être pour commencer, un mini historique. De quand date l'émergence de Berlin comme ville de la fête ?
Alors la culture de la fête nocturne remonte bien avant la réunification des deux Allemagnes et la chute du mur. Donc la réponse classique évoque souvent la décadence et la liberté sexuelle propre à la République de Weimar, c'est vrai, mais c'est sans doute aussi un petit peu réducteur, puisque Berlin, en 1919, est une ville vaincue. Elle sort de la Grande Guerre, humiliée politiquement, désarmée aussi bien concrètement que symboliquement, et désorientée moralement. Et cette situation a produit sans doute un vide normatif à l'époque. Donc la fête n'est pas venue après la catastrophe, elle peut être perçue, on va dire, dans ces années, pendant les années 20, enfin immédiatement après la Première Guerre mondiale, comme une technologie de survie collective face à cet effondrement des grands récits qui étaient l'empire de Guillaume II, le culte et le culte de la nation et de la patrie cultivée sous Bismarck. Donc la fête berlinoise des années 20 n'est pas juste hédoniste au sens restreint du terme, hein, elle est aussi post-tragique en quelque sorte. Et c'est ce qui a fait de Berlin une métropole de la fête dans les années 20, avec ses nombreux cafés, sa scène littéraire, théâtrale, sa scène intellectuelle, ses peintres, ses cabarets, sa scène musicale et cinématographique, mais aussi et surtout donc sa sociabilité nocturne.
Et donc cette fête, elle perdure en fait depuis les années 20 jusque dans les années 2000, avec aussi, j'imagine, comme raison principale le fait que eh bien, c'est pas cher de venir faire la fête à Berlin.
Alors, elle perdure effectivement depuis les années 90 et c'était essentiellement dû à la question de l'accessibilité de la fête, qui était effectivement très très peu chère comparée aux autres métropoles européennes. À cela s'ajoute, à mon sens aussi, quelque chose que j'aurais sur lequel j'aimerais revenir, c'est que Berlin s'est constitué un peu en anti-Paris. Il y a l'écrivain Christopher Isherwood qui, dans son roman « Adieu à Berlin », décrit très bien le chemin particulier qu'a pris la capitale allemande pour se démarquer de Paris, depuis la République de Weimar jusqu'à nos jours. Ce que veut dire Isherwood, c'est que Berlin a commencé très tôt, jusqu'à aujourd'hui, à vendre sa différence culturelle et sa transgression, en quelque sorte, et cet écart vis-à-vis des normes, notamment de genre et de pratiques corporelles, voire sexuelles, a permis à Berlin de s'affirmer au fil du XXe siècle comme une destination touristique à part, notamment pour la communauté LGBT, mais pas que, et tout particulièrement depuis ces 20 dernières années où la fête, à part depuis le Covid, était beaucoup plus accessible que dans n'importe quelle autre métropole européenne.
Mais alors pourquoi on dit aujourd'hui que le modèle berlinois s'essouffle ? Est-ce que c'est dû, selon vous, à la fermeture des clubs ou à la baisse de fréquentation ou tout ça en même temps ?
Je crois qu'il y a un certain empressement de la presse française à vouloir crier au déclin du modèle berlinois, mais est-ce qu'on peut parler de la fin de ce fantasme berlinois, de la fin du fameux Berlin Calling du film d'Anne Schur, donc de cet appel de Berlin? Je pense que c'est effectivement parti vrai. Pendant longtemps, Paris a souffert à l'époque du complexe d'une ville trop réglementée, trop bourgeoise, pas assez libre, ce n'est plus le cas. Mais Berlin a effectivement changé en profondeur depuis le Covid. Je dirais qu'il y a eu un double coup d'arrêt sur les nuits berlinoises, avec d'abord la crise sanitaire et d'autre part la guerre en Ukraine, qui a engendré une inflation, une crise de l'énergie sans précédent. Il y a eu une augmentation exponentielle des prix après la réouverture des clubs. Une partie du public d'habitués n'est pas revenue, ce qui explique que certains clubs ont été obligés de mettre la clé sous la porte. Et il y a plusieurs raisons à cette baisse de fréquentation des clubs. Il y a d'une part une baisse significative du tourisme festif, Tout un tas de touristes venaient avec les compagnies low cost le week-end faire la fête à Berlin. Et ce type de tourisme a clairement diminué, ou en tout cas ralenti la fréquence de leur visite à Berlin. Mais il y a aussi un problème, je pense, de renouvellement du public, peut-être aussi un sentiment de lassitude de l'ancienne génération face à l'évolution de la scène, et aussi une jeune génération, et ça c'est peut-être plus ce qui préoccupe davantage les clubs, qui fréquentent moins les clubs, qui adoptent aussi des pratiques de clubbing plus sobres, qui génèrent aussi moins de profits dans le monde de la nuit, ce qui fait aussi peur aux gérants de clubs qui sont plus exigeants maintenant sur les obligations de rentabilité, notamment de soirées organisées par les collectifs. Et les clubs dont le public était majoritairement constitué de touristes du week-end ont été sans doute particulièrement affectés par cette évolution. Donc je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui jouent. L'explosion des prix, notamment d'entrée, hein, pose clairement une question maintenant des questions d'accessibilité sociale, ce qui, à mon sens, constitue aujourd'hui un peu l'angle mort, hein, des réflexions de la Club Commission, qui est un peu l'instance de lobbying des clubs berlinois. Alors, il y a certes effectivement une augmentation des charges, une augmentation de l'économie, des coûts de l'énergie. Mais ce qui est peu connu, c'est que l'augmentation des tarifs des clubs a été bien plus importante que la courbe de l'inflation et des loyers, ce qui rend clairement la fête trop chère pour certains. Alors, je regardais un petit peu les prix d'entrée, par exemple, dans des nouveaux clubs à Paris comme le Miamao ou à l'Essin. Ça va de 15 à 20 euros, alors que maintenant, une entrée au Berghain, et pas qu'au Berghain, coûte entre 28 et 30 euros, soit quasiment 10 euros de plus, voire le double. Ça confirme, je trouve, appliqué à Berlin, le constat que faisait déjà la sociologue Myrtille Picot sur la création d'un loisir urbain qui est né des marges, hein, qui est né dans les marges de l'underground des milieux noirs américains de Détroit. Donc sur la création d'un loisir urbain qui est né des marges, mais qui est réservé de plus en plus aux classes aisées. Et c'est tout le public berlinois qui, je trouve, s'en trouve modifié depuis le Covid, puisque les Berlinois sortent moins longtemps, moins souvent, et aussi dans moins d'endroits différents, et consomment aussi moins. Donc ça a un impact sur le public, mais aussi sur la fréquentation des lieux, puisque c'est dans la fréquentation régulière d'un club ou d'une soirée que se crée le sentiment de communauté, qui est un élément central dans la club culture.
On va peut-être finir sur ces mots. Merci beaucoup, Guillaume Robin. Merci.
Merci.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, une bataille après l'autre est le grand gagnant des Golden Globes.
Oui, le film du réalisateur Paul Thomas Anderson est lauréat dans 4 catégories, celle de la meilleure comédie et de la meilleure réalisation lors de la cérémonie qui se déroulait cette nuit à Beverly Hills. L'actrice Teyana Taylor, qui joue dans le film le rôle d'une révolutionnaire afro-américaine, a remporté le trophée de la meilleure actrice dans un second rôle. Lors de cette cérémonie aux accents très politiques, elle a déclaré « À mes sœurs de couleur et aux petites filles de couleur qui regardent ce soir, notre lumière n'a pas besoin de permission pour briller. » Fin de citation. Timothée Chalamet a reçu, lui, la statuette du meilleur acteur pour une comédie, pour son rôle de joueur de ping-pong dans le film Marty Suprême qui sortira en France le 18 février prochain. Chloé Zhao a remporté le prix du meilleur film dramatique pour Hamnet, tandis que le meilleur film international est allé à L'agent secret du réalisateur brésilien Kleber Mendoza Filho.
La ville de Nanterre est soupçonnée d'avoir contourné la loi lors de l'attribution du chantier de rénovation du théâtre des Amandiers.
Alors que l'inauguration du nouveau théâtre a eu lieu, après plus de 4 ans de travaux, Libération révèle qu'à l'origine, l'agence norvégienne Soeta n'a pas remporté la procédure pour rénover ce lieu. C'est en effet le projet de l'agence française Blond et Roux qui fut retenu en 2018 par le comité décisionnaire après plusieurs mois d'études. Or, quelques jours plus tard, la ville de Nanterre a annoncé que les architectes du cabinet Soeta avaient gagné le marché. Selon Libération, ce serait le président des Hauts-de-Seine de l'époque, Patrick Devedjian, qui aurait fait pression pour que l'agence norvégienne soit sélectionnée. Une procédure pénale déposée par les architectes Marie-Agnès Blond et Stéphane Roux est en cours pour délit de favoritisme. L'ancien maire de Nanterre, Patrick Jarry, avait été placé en garde à vue en mars 2025 dans le cadre de cette enquête.
Et pour finir, Marie, le FBI va quitter son bâtiment historique.
Oui, depuis 50 ans, le FBI siégeait à Washington, dans le J. Edgar Hoover Building. Ce bâtiment de style brutaliste, construit par l'architecte Charles Murphy en 1975, tombe aujourd'hui en ruine car il n'a pas bénéficié au cours du temps des rénovations nécessaires. Il semble par ailleurs peu probable que le lieu soit rénové, le coût d'une réhabilitation étant considéré comme trop important par l'administration. Le FBI va donc déménager vers un bâtiment fédéral situé à proximité. Bien que motivé par la vétusté du lieu, difficile de voir dans cette décision la conséquence des nombreuses critiques émises par Donald Trump à l'encontre de l'architecture moderniste et brutaliste depuis le début de son second mandat.
Merci Marie, on se retrouve demain pour de nouvelles actualités culturelles. À demain. En attendant, il est 13h et vous écoutez France Culture.